Ô Dieu, tu es grand. J'aimerais prier. Père Céleste, c'est vrai, merci parce que ça nous a été rappelé ce matin, tu nous as choisis. Merci parce que tu as un plan pour nous. Merci aussi parce que tu ne nous laisses pas seuls sur ce chemin et tu es avec nous, à nos côtés, jour après jour. Et tu veux aussi te révéler à chacun d'entre nous comment tu es, qui tu es. Merci parce que Dieu, tu es grand. Et merci parce que tu n'es pas limité comme nous le sommes. Et merci parce qu'on peut te faire confiance. Amen. Alors ce matin, on reprend notre série sur les signes qui sont dans l'évangile de Jean. Donc sur les sept plus un signe, sept signes, Pierre nous l'a rappelé, sept signes du vivant terrestre, on dira, de Jésus, et un signe après sa résurrection. Et comme ça nous a été rappelé, les signes, je le rappelle, sont des miracles un petit peu spéciaux. Ces signes de l'évangile de Jean sont des miracles qui ont pour but de nous montrer qui est Jésus. Ce n'est pas juste des miracles spectaculaires, extraordinaires. Ils ont pour objectif de nous montrer qui est Jésus. Et d'après Jean 20, verset 31, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. On parle là simplement d'une question de vie ou de mort spirituelle. Donc nous abordons ce matin le cinquième signe, Jésus marche sur l'eau, qui se déroule juste après la multiplication des pains. Nous sommes le soir même, ils ont mangé le dîner avec le pain et les poissons qui ont été multipliés, et nous sommes le soir même. Les disciples viennent de voir Jésus accomplir l'impossible, c'est-à-dire nourrir une foule de 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est le contexte de notre passage. Et je vous propose qu'on lise ces quelques versets. Jean 6, verset 16. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent alors le prendre dans la barque, et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Nous avons 5 versets, qui soit on les lit, comme ça, et puis on passe à autre chose, soit peuvent peut-être nous désarçonner. Jésus marche sur l'eau. Alors, il y a des passages parallèles à ce texte de Jean. Donc, en Matthieu 14, versets 22 à 34, et Marc 6, versets 45 à 53, auxquels, pendant le message, nous ferons quelques références. Alors, nous sommes sur le lac de Tibériade, autrement appelé la mer de Galilée. C'est la région d'origine de Philippe, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et on s'aperçoit aussi que des abords de la mer de Galilée venait un bon paquet de disciples. Il y avait Pierre et André son frère, Jacques et Jean, fils de Zébédée, entre autres, qui étaient à l'origine pêcheurs. Donc, s'ils étaient pêcheurs, on imagine qu'ils étaient marins. Vaut mieux. La mer de Galilée, c'est leur terrain de jeu. Depuis tout petit, ils ont grandi auprès de la mer. J'imagine qu'ils ont nagé, qu'ils ont fait leurs premières expériences aussi. On peut peut-être même imaginer que Pierre et André, alors ils n'étaient pas exactement de la même bourgade, mais on peut imaginer qu'ils ont fait des courses entre eux. Pierre et André d'un côté, et puis Jacques et Jean de l'autre, et ils ont fait la course autour du lac. Alors, les disciples... Est-ce que ça marche le... Voilà, super. Les disciples partent de quelque part par là. Je tremble un peu, mais vous voyez. Donc, de vers Bethsaïda, ici, là. Et ils vont en direction de Capernaum. OK ? Alors, selon les autres textes, on parle du pays de Génézaret. Alors, Génézaret, c'est Ginosar. Et tout ça, c'est la plaine et c'est le pays de Génézaret. Et Capernaum, c'est limitrophe au pays de Génézaret. Donc, on est dans cette direction-là. D'accord ? Je tremble énormément, je suis désolé. Ce qui est intéressant de constater, c'est ça. D'ailleurs, ça va être plus facile comme ça. Ici, c'est la vallée, c'est le Jourdain qui arrive et qui se jette dans le lac de Tibériade. Je ne suis pas un prof de géo, hein, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes à remarquer. Donc, pour faire ce trajet, il passe devant l'embouchure du Jourdain. Les vents, alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà visité Israël et qui ont navigué sur le lac de Tibériade, mais les vents de la vallée du Jourdain ont tendance à provoquer des lames de fond sur la mer de Galilée. Et les tempêtes sont donc fréquentes sur le lac, et j'imagine connues des marins locaux. Voilà, après cette remarque topographique, je nous propose ce matin de faire trois observations sur les disciples, dans un premier temps, puis nous ferons trois observations sur Jésus pour essayer d'en tirer quelques enseignements pour nous-mêmes. Alors, la première observation sur les disciples. Les disciples sont dans la tempête. Alors, juste pour revenir juste avant le moment où ils se retrouvent dans la tempête, déjà, on ne comprend pas trop pourquoi ils partent sans Jésus. Et dans Matthieu, on voit ça au verset 22, 14 verset 22, on comprend que c'est Jésus qui les oblige à partir seuls. Matthieu 14, verset 22. « Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. » Les disciples obéissent donc à Jésus et se retrouvent dans une situation délicate. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Les disciples obéissent à Jésus et ils se retrouvent dans la tempête. Est-ce que les tempêtes de nos vies n'arrivent que quand on désobéit à Dieu ? Il semble que non. Et on peut reconnaître qu'il y a deux types de tempêtes dans nos vies. Celle que je récolte parce que j'ai désobéi à Dieu, mais Dieu dans sa grâce est toujours là, même s'il peut y avoir des conséquences. Et les tempêtes qui arrivent bien que je sois dans la main de Dieu. Ou même parce que je suis dans la main de Dieu. Une des questions difficiles de la vie chrétienne, et que j'aborde avec beaucoup de retenue ce matin, les tempêtes sont-elles nécessaires pour grandir avec Dieu ? Les tempêtes sont-elles nécessaires pour grandir avec Dieu ? Et j'aimerais prendre un exemple réel et vivant et actuel de cela, et j'aimerais vous partager le témoignage de Gwendo et Thomas et de leur fille Alexia. Excusez-moi. Donc nous avons visité lors du grand week-end de la semaine dernière Gwendo et Thomas. Gwendo et Thomas, ils ont été parmi nous, ils sont mariés parmi nous, Thomas a été baptisé parmi nous. Et donc ils ont eu, il y a un an, une fille qui s'appelle Alexia. Et ils ont découvert il y a trois mois, qu'elle était atteinte d'une leucémie assez peu connue et particulièrement virulente. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les parents se relaient tour à tour, tous les 3 jours, dans la chambre stérile d'Alexia, à l'hôpital de la Timone à Marseille. Elle en est à sa 3e chimio, à l'âge où d'autres vont à la crèche. Néanmoins, Gwendo et Thomas trouvent la force de témoigner autour d'eux, via Facebook, vous avez peut-être lu quelques articles, mais aussi dans leur propre famille, en gardant confiance dans leur Dieu et dans sa souveraineté. Et nous avons constaté à leur contact que certes il y a des moments difficiles, mais qu'ils s'accrochent à Dieu plus que jamais. Et s'appuient sur lui pour vivre ces moments et que Dieu les fait surnager dans cette situation. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu est en train de les faire grandir comme ils n'auraient jamais peut-être imaginé. Pour information, Alexia en ce moment va bien et a d'ailleurs été déclarée en rémission suite à la première chimiothérapie. Les médecins n'ont pas compris, ils ont mis une nuit pour essayer de comprendre, ils n'ont pas compris. Ils remercient d'ailleurs l'Église et les frères et sœurs car ils se sentent portés dans la prière dans cette situation. Très souvent, nos prières tournent autour du fait de demander à Dieu de réduire les épreuves de nos vies, n'est-ce pas ? Nous voulons tout en notre faveur, mais peut-être que Dieu permet d'empiler les épreuves à notre égard afin que nous puissions expérimenter un vrai miracle dans des proportions divines. Peut-être que la foi et faire confiance à Dieu, peu importe la difficulté de l'épreuve. Peut-être que nos situations impossibles sont des opportunités d'expérimenter une nouvelle dimension de la gloire de Dieu. Cette citation vient d'un livre dont je vous ai parlé il y a quelque temps, qui est très parlante. Alors ce texte de Jean nous encourage à tenir le cap de Génézareth. C'est-à-dire là où Dieu t'envoie, là où Dieu t'appelle, et de ne pas t'arrêter aux tempêtes. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Une mer calme n'a jamais fait un bon chrétien. Ils sont en difficulté dans la tempête. Alors, je le rappelle, ils sont marins-pêcheurs locaux. Ils ont, je ne sais pas, entre 25 et 35 ans peut-être. Ils ont vécu la plupart du temps sur l'eau, sur cette eau. Ce sont les apôtres Pierre de Kersauzon et André Tabarly dont on parle. Malgré cela, ils se retrouvent en difficulté par une tempête sur leur lac. Est-ce que les disciples n'ont pas oublié que Dieu pouvait les aider dans leur situation ? Ils ne font pas appel à Dieu, là. Simplement pour rappel, en Marc 4, donc on est à 2 chapitres avant, verset 35, ils sont sur le lac de Tibériade également, et Jésus a déjà calmé une tempête. Il dormait à la poupe, mais il a déjà calmé une tempête. Ils se sont déjà retrouvés dans cette situation. Ou bien, est-ce que ce n'est pas plutôt leur orgueil qui ont fait qu'ils n'ont pas osé demander de l'aide à Dieu ? Nous sommes marins quand même. Puis c'est notre mère. On va pouvoir s'en sortir quand même. Est-ce que parfois je ne vis pas aussi un peu, moi, mes tempêtes tout seul, surtout dans des domaines familiers que je crois pouvoir maîtriser ? Et cela peut être épuisant, n'est-ce pas ? Tant qu'on ne laisse pas la barre à Jésus. Alors, dernière observation des disciples, ils veulent le faire entrer dans la barque. Je trouve ça extraordinaire. Ils viennent de voir Jésus, il y a quelques heures, réaliser l'impossible. et se retrouvent surpris par une nouvelle manifestation de qui est Jésus, qui est en train de les rejoindre sur l'eau, et il lui propose de rentrer dans la barque. Ils raisonnent avec leur pensée humaine. Ils n'ont pas encore compris qui était Jésus. D'après Marc 6, verset 51, ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. J'imagine aussi leur réaction lorsqu'il leur a dit de partir en les laissant sur le rivage. Mais, Jésus, tu nous fais partir là, mais comment tu vas nous rejoindre ? Nous, on va traverser la mer là, et toi, tu nous rejoins comment ? Sois raisonnable, monte dans le bateau. Ils viennent de voir Jésus multiplier les pains pour 20 000 personnes, et ils lui disent, alors qu'il marche sur l'eau, de monter dans la barque. Pourquoi ? Parce qu'il risque de se noyer ? Est-ce que parfois aussi je n'aborde pas aussi Dieu avec mon cerveau humain tout limité ? Est-ce que parfois je ne vois pas Jésus plus petit qu'il n'est ? Ou bien est-ce que je n'oublie pas que celui qui vit en moi et qui m'accompagne au quotidien est le Fils de Dieu ? Un autre point. Qui est à souligner, car voilà, les disciples n'ont toujours pas compris qui était Jésus. Imaginez Julien Lepers, pour une émission spéciale de questions pour un champion sur le lac de Tibériade, au 1er siècle. Attention, top, je suis né autour de l'an zéro d'une vierge. Je change l'eau en vin. Je guéris à distance les malades. Je guéris les paralysés. Je suis capable de multiplier les pains et les poissons pour une foule. Je marche sur l'eau en pleine tempête, je suis. C'est assez désolant, n'est-ce pas, quand on le lit comme ça. Mais on voit quelque chose de très important. Les signes révèlent qui est Jésus. Mais notre part, qui est un vrai combat et un vrai sujet de prière, est d'avoir et de garder un cœur tendre et bien disposé. Et ça, c'est vrai pour nos contacts non chrétiens, mais c'est aussi vrai pour chacun d'entre nous dans notre marche quotidienne. Alors, une dernière remarque. Si vous prenez le passage parallèle de Matthieu 14, Matthieu 14 diffère sur ce point, et Matthieu a écrit que les disciples ont adoré Jésus comme étant le Fils de Dieu suite à cet épisode. Néanmoins, on voit en Matthieu 15 que pour la deuxième multiplication des pains, ils n'ont toujours pas totalement compris qui était Jésus. Je réalise dans ma vie personnelle que comprendre qui est réellement Jésus est un long processus avec des déclics successifs. D'ailleurs, la série de messages qu'on a en ce moment sur les signes de Jean fait partie de ce processus et notre objectif est que tous ensemble nous puissions apprendre à mieux connaître ce Jésus pour mieux l'adorer et mieux lui rendre gloire. Et je vous propose maintenant qu'on passe justement à Jésus. Première observation du texte. Jésus reste seul. Jésus reste seul pour parler avec son Père. Il a besoin de ce temps. Comme si pour faire les bonnes œuvres préparées d'avance, Jésus consultait son Père. Je ne sais pas ce que vous pensez de comment a vécu Jésus, mais Jésus n'a pas été programmé pour changer le monde en 3 ans. En autonomie complète, comme un robot. Jésus était en relation avec son Père. Waouh ! Régulièrement, dès qu'il pouvait. Et cela m'encourage à trouver, moi, des moments pour être en relation avec Dieu malgré la cohue que sont nos vies. Matin, midi, soir, nuit. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit « Avec l'âge, je dors moins bien et je profite des moments où je me réveille la nuit pour prier. » J'ai eu un fils qui m'a, voilà, bref, qui m'a réveillé la nuit. Voilà. Il y a plein de choses, plein d'occasions. Dans le voiture, train, bus, avion, ce que vous voulez, ce qu'on veut. Voilà, une autre remarque. Jésus n'arrive pas tout de suite. Il est précisé qu'il arrive à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire à peu près entre 3 et 6 heures du matin. Ils sont partis la veille, il arrive entre 3 et 6 heures du matin. Jésus leur laisse faire leur expérience. On l'a déjà vu, mais Jésus est un des précurseurs de la pédagogie active. Il fait faire à ses disciples. Distribution des pains et des poissons. Il les envoie deux par deux pour chasser les démons. Il les fait monter dans la barque. Un philosophe chinois, qui s'appelait Confucius, dont les pensées ont après été détournées, mais il a dit quelque chose d'intéressant, en tout cas sur la pédagogie active. J'entends, j'oublie. Je vois, je retiens. Je fais, je comprends. Jésus te fait véritablement confiance. Et ce, malgré notre inexpérience ou parfois nos maladresses. Jésus nous laisse faire, mais il reste toujours attentif. Et garde un œil sur nous, quoi qu'il arrive, et est prêt à venir nous secourir. Deuxième observation, cette parole de Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi. C'est moi est à rapprocher de je suis. Le je suis de l'Ancien Testament. Le Yahvé. C'est une déclaration de la divinité de Jésus et également de sa fidélité à nos côtés. Car il est « je suis », celui qui était, qui est et qui sera, et qui ne change pas. Ses promesses étaient vraies hier, elles le restent aujourd'hui, et elles le seront demain. C'est moi. C'est moi, c'est ce que je dis à mon fils de 3 ans, pour le rassurer quand il se réveille, en pleine nuit. Je lui dis, c'est papa. N'aie pas peur, c'est papa. C'est pas forcément la fin de la situation qui rassure. C'est la présence de l'être protecteur à nos côtés. Et Jésus t'a promis, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Jésus va dire, n'ayez pas peur. Car voir Jésus tel qu'il est, en pleine manifestation de sa gloire, peut être intimidant, n'est-ce pas? Parlez-en avec Jean, dans l'Apocalypse. Et en effet, Jésus est notre ami, notre consolateur, notre protecteur, mais c'est aussi notre Dieu glorieux et non bloqué par les choses de la terre. Il nous dépasse, et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Ésaïe 55, versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. J'aimerais illustrer ce verset que l'on cite régulièrement d'un dernier exemple du livre de Batterson. Et après, j'arrête de vous parler de ce livre. Les astronomes ont étudié des galaxies à une distance, les plus lointaines, de 12,3 milliards d'années-lumière. Vous savez ce que ça veut dire, vous ? Moi non plus. Pour mettre cette distance en perspective, considère le fait que la lumière voyage à 300 millions de mètres secondes. Mon nouveau scénic, il ne fait pas ça. Hein. 300 millions de mètres secondes. Et elle n'a besoin, la lumière, que de 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre. 8 minutes pour faire 150 millions de kilomètres. En fait, la lumière du Soleil est âgée de seulement 8 minutes quand elle nous parvient. Mais la lumière des galaxies les plus éloignées met 12,3 milliards d'années pour parvenir à la Terre. Cette distance est incompréhensible. Et Dieu dit que c'est à peu près la distance qui sépare ses pensées de nos pensées. Tes meilleures pensées au sujet de Dieu durant tes meilleurs jours sont 12,3 milliards d'années-lumière plus petites que ce que Dieu est grand et de ce que Dieu est réellement. Nous sous-estimons la bonté de Dieu et sa grandeur par au moins 12,3 milliards d'années-lumière. Peut-être que c'est le moment d'arrêter de limiter Dieu à 4 dimensions. Peut-être que c'est le moment d'arrêter de limiter Dieu à 4 dimensions. C'est moi, n'aie pas peur. Voilà ce que te dit ce matin ce Dieu extraordinaire, ou devrais-je dire extraterrestre. Dernière observation sur Jésus. Marcher sur l'eau. Pourquoi pas voler ? Marcher sur l'eau. Alors déjà, comment marcher sur l'eau ? Vous avez déjà essayé ? Il y en a qui ont essayé, hein ? Sur le web, Et il y a eu un nombre d'explications qui ont été avancées, ça a fait couler beaucoup d'eau, d'encre, voilà. Alors, la première. En fait, sur le lac de Tibériade, il y avait de la glace. Et en fait, la barque, elle s'est fait ballotter par des flots de banquise, en fait. Bon, ok. Alors, deuxième explication. En fait, le taux de sel dans la mer morte est de 27%, qui permet de flotter, mais ne permet pas la vie des poissons, par exemple. Sauf que nous ne sommes pas sur la mer morte. Nous sommes sur le lac de Tibériade, qui est en amont sur le Jourdain. Et dans le lac de Tibériade, s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a des poisons. Et c'est que le taux de sel est raisonnable, et donc comme toute autre mer. Alors si, il y a une possibilité. Avec des pieds plus larges, et avec 10 foulées par seconde, sachant que Bolt, sur un 100 mètres, il en fait 4. Ok ? Donc, si tu mets des pieds un peu plus larges, et que tu cours à peu près plus de 2 fois plus vite de Bolt, sur, s'il te plaît, pas 100 mètres, puisque Jésus a marché 5 kilomètres. Tu peux y arriver. Alors, il y en a un autre qui a réussi, quand même. Voilà, il est là. Et en plus, sur le lac de Tibériade. Il s'appelle Maciek Kozirski. Alors, je vous lis. Marcher sur l'eau de la mer Galilée, comme Jésus l'a fait il y a 2000 ans, était le rêve, je regarde Émilie, du kite surfeur polonais Maciej Kozirski. Un rêve enfin devenu réalité qu'il s'imaginait réaliser depuis longtemps, sans artifice ou assistance technique. Kozirski a passé 4 jours pour réussir cet exploit baptisé « Miracle ». Il a utilisé sa voile pour atteindre sa vitesse maximale, puis descendre de sa planche. Lâcher la voile et enfin marcher sur l'eau. L'athlète a chuté dans l'eau à pleine vitesse plus de 50 fois. Il a finalement accompli son rêve et réussi à obtenir le cliché, une photo, miracle, lui en train de marcher sur l'eau avec l'église historique en second plan, blablabla, blablabla. Il a réussi le temps d'une photo. Voilà, là il est avec sa voile et sa planche. Jésus est au-delà des lois terrestres. Il n'est pas arrêté par ce qui t'arrête. Il maîtrise les lois de la nature puisqu'il les a créées. Jésus est celui qui est au-dessus des lois terrestres et maritimes. Gravité, densité, Archimède, c'est pas important. Il est, comme on dit en anglais, out of the box. Il est plus grand. Au-delà de ce que nous pouvons, nous pensons et pouvons même imaginer. Et ce qui est énorme, c'est qu'il est prêt aussi à nous faire surnager. On voit ça dans Matthieu, où c'est aussi l'épisode où Pierre va marcher sur l'eau. Quelques instants, malgré ses doutes, Jésus lui a permis de marcher sur l'eau. Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, qui agit en toi, infiniment plus que tout ce que tu demandes ou tout ce que tu penses. Alors, pourquoi marcher sur l'eau? En marchant sur l'eau, Jésus rejoint des marins-pêcheurs dans leur quotidien. Peut-être que suite à l'épisode d'avant, ils ont pensé que Jésus avait des dons de boulanger. Je plaisante, hein. Mais là, ils savent ce qu'est la mer. Et c'est leur mer. Jésus va se servir de cet épisode pour leur montrer qu'ils peuvent devenir les meilleurs marins du monde. Pas de problème. Lui marche sur les eaux de leur lac. Il s'est servi de ce qu'ils connaissaient, de leur environnement, pour leur parler. Il est allé les chercher là où ils en étaient. Qu'est-ce qui te parle à toi ? Jésus marche sur l'eau. Où est-ce que tu voudrais surnager ? Dans ton travail ? Dans ta famille ? Dans ta vie personnelle ? Dans ton caractère ? Dans une mauvaise habitude ? Dans ta santé ? Dans la santé d'un proche ? Dans ta vie d'église ? La liste peut être interminable. Je laisse cette question sur votre cœur. Pour conclure, ce texte nous invite à voir Jésus tel qu'il est, c'est-à-dire illimité. Jésus est illimité. Peut-être que ta réaction face à ça est de te sentir très très loin d'un Dieu si grand. Mais il y a avec le Dieu de la Bible une volonté de proximité avec sa créature qui est aussi forte que ce qu'il est grand. La plus grande preuve est qu'il a sacrifié son ciel de gloire. Donc on parle de l'être qui pense 12,3 milliards de fois mieux que nous. Hein. Ça, il l'a laissé. Il est descendu. Il a laissé sa toute puissance et même sa vie pour cette proximité avec chacun d'entre nous. Et cela est encore à ta portée ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, d'entrer en relation avec ce grand Dieu merveilleux qui s'intéresse à toi. Et ce, bien avant ta naissance. Si je résume les points principaux que nous venons de voir ensemble, les tempêtes peuvent arriver dans la vie chrétienne, même si et parce que je suis dans les plans de Dieu. Une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Jésus est avec nous tous les jours, dans les jours de tempête, mais aussi dans les jours de pluie, dans les jours gris, comme hier, et dans les jours de beau temps. Jésus est au-delà des lois terrestres. Il est illimité dans ses pensées, dans ses capacités et dans celles qu'il voudrait nous transmettre. La seule chose qui peut le limiter, c'est la confiance que j'ai en lui. Ce texte nous lance aussi un défi à chacun, celui de repousser notre limite de confiance en Jésus. Notre Dieu est infiniment grand et infiniment concerné par notre quotidien, qu'il puisse être glorifié dans nos vies cette semaine. Amen.